Merci à vous pour l'invitation et pour cette possibilité finalement de dialoguer à propos de la musique. Alors, je voudrais structurer mon intervention autour de l'énonciation musicale finalement par rapport à trois axes d'enquête, donc le geste, l'espace d'implémentation et donc aussi en particulier, je voudrais dire, à l'espace d'implémentation médiatique et finalement l'environnement acoustique. Donc la scène théorique est faite d'emboîtement successif, le geste musical dans l'espace médiatique ou dans l'espace d'implémentation en tout cas, l'espace médiatique dans l'environnement acoustique, etc. Bien évidemment, il y a d'autres aspects que je suis obligé à mettre à côté, à laisser à côté. Donc, par exemple, le problème du langage, donc des langages au pluriel, acoustique, leur hétérogénéité sémantique. Je dois aussi laisser à côté la question de l'institution musicale. Je vois bien que le geste est aussi lié à l'institution. Si on pense, par exemple, à Kagel, on ne peut pas lire le geste musical de Kagel sans un renvoi, finalement, à l'institution, au rituel, etc. Et après, la centralité que j'ai attribuée à l'espace, dans mon intervention, on parle surtout d'espace, eh bien, on doit penser ça de manière totalement complémentaire et pas du tout en substitution ou en concurrence avec une réflexion sur les formes temporelles. Par exemple, les livres de Chauvel est consacré à ces dernières. Alors, la restriction, bien évidemment, est artificielle. Il y a seulement le but de souligner les limites un peu de ma présentation. Alors, je voudrais commencer avec le geste. Qu'est-ce que le geste? Parce qu'on peut penser que tous les sémiologues connaissent bien cette question, et pas du tout. On peut partir d'une définition préliminaire en disant qu'est-ce qu'est un geste? Eh bien, le geste est la dimension pragmatique de toute activité énonciative, ancré dans les corps du sujet, à travers les organes phonatoires, la posture, le membre supérieur et inférieur, les prothèses qui amplifient éventuellement leur extension et leur potentiel d'inscription dans l'espace et dans les temps. Alors, dans cette définition, il y a déjà une quantité de prises de position qu'on pourrait questionner, une série de conséquences qu'on pourrait préciser. Avant tout, les caractères énonciatifs du geste, à savoir son caractère discursif, qui dépasse alors l'exemplification d'une relation d'expérience avec l'entour, comme les cas de mouvement ou de posture qui cherche et stabilise l'équilibre, ou encore le mouvement qui vise une prise directe sur l'entour, sur l'environnement. Toutefois, il faut remarquer que par rapport à la signification, la perception et la discursivité sont toujours des saisies, des appréhensions concurrentes et susceptibles d'exproprier les terrains apparemment réservés à l'autre. C'est pourquoi même la précarisation de l'équilibre peut se transformer dans un scénario de communication, peut se transformer dans une production de signes à interpréter sous la réserve de la simulation, finalement, de la simulation éventuelle. À ce propos, le geste relève sa nature plutôt discursive à partir du fait qu'il cherche à articuler un espace extroceptif et un espace interoceptif, ce qui permet une dialectique entre les valeurs opératives, c'est-à-dire contraignantes, et les valeurs opérables, c'est-à-dire déjà établies, dans un espace éminemment discursif. Le geste est alors une action capable d'excaver sa propre niche de signification. C'est pourquoi la somatisation pure, irréfléchie, semble se détacher du geste, bien qu'elle reste une donation du sens et un plan d'observation des effets perlocutoires du discours. Le geste s'ouvre au questionnement de l'intentionnalité, à l'instruction indiciaire de l'actentialisation spécifique d'un sujet qui dirige ses propres enjeux existentiels dans des espaces et des temps de référence spécifiques. Mais nous ne sommes pas encore arrivés pleinement à justifier la discursivité du geste. On a besoin d'ajouter une composante encore, la multiplication des espaces de référence et l'hétérogénéisation conséquente des actes gestuels. La somatisation de la peau reste un support homogénéisant. Et celle peut bien se transformer, elle peut se bien transformer dans une surface d'inscription de valeurs hétérogènes. Mais elle fonctionne normalement comme un embrayeur, c'est-à-dire un dispositif intégrateur, un dispositif d'intégration identitaire. L'appareil phonatoire devient en revanche un espace énonciatif de gestes. Dès qu'on ouvre une hétérogénéité de production acoustique, des bruits aux phonèmes en passant par les interjections. Le corps creux permet une certaine, le corps des organes phonatoires permet une certaine scénarisation actentielle en montrant une dialectique possible entre différentes voix, plus propres, moins propres, impropres, fausses aussi, dans une sorte de rhétorisation de la présence à soi ou bien de l'être habité par l'autre. On peut commencer alors à tirer des conclusions de cette petite thématisation de la culture du geste en tant qu'énonciation, acte d'énonciation. La linguisticisation du geste, la sémiotisation du geste, ne passe pas forcément par la codification et l'établissement d'un paquet de figures de l'expression et des contenus, donc des contenus figés, mais en revanche, le geste affiche les préconditions de la sémiotisation, la construction de sa niche, les couplages avec un espace discursif émergent qui commence à s'émanciper par rapport aux valeurs expérientielles. En plus, entre le geste et la posture, il y a une certaine continuité de formes d'actentialisation du corps qui empêche d'établir une discontinuité marquée à partir du plan myriologique du corps. Si le geste est partitif par rapport au cadrage totalisant de la posture, ce qui vraiment change les statuts de la configuration est l'hétérogénéité des espaces d'inscription, bien que sur le plan de l'ancrage matériel, il n'y a qu'un plan unique et unifiant. Donc la pluralisation des espaces de référence construit en elle-même une dimension fictive, à savoir des territoires de l'énonciation. Cela n'empêche pas de reconnaître qu'il y a quatre paliers tensifs dans l'affirmation progressive du geste qui restent toujours des dimensions emboîtées de l'imaginaire discursif et les lignes d'expropriation possibles de la part de l'expérience, par exemple sous forme d'appréhension analogique, donc l'Einfühlung, l'idée de l'empathie ou de l'anthropathie. Nous avons alors quatre dimensions en boîtier. La dimension de la peau homogénéisante, où le geste peut être transformé en événement. La deuxième dimension, la dimension du corps creux, de l'apparat phonatoire ou du corps de l'instrument, qui donne au geste une sorte de théâtre intérieur capable d'explorer une hétérogénéité acoustique susceptible d'instaurer un régime d'énonciation centripète. Centripète parce que les productions, les émissions sonores sont tôt ou tard réembrayées, réassumées par l'instance subjective. Et en revanche, il y a une troisième dimension, la dimension de l'enveloppe corporelle, où la présence sensible peut se pluraliser selon différents espaces de pertinence. Quatrième dimension, la dimension de l'environnement, où le geste devient une trajectoire presque absorbée dans un contexte sans lisière et avec des repères pertinents très hétérogènes. Cela instaure une sorte d'hétérogénéité au carré, l'hétérogénéité de l'environnement, où l'initiative discursive musicale risque de tomber dans les vides, dans un espace indéterminé, sans des paramètres de conformité. afin de protéger le geste de l'environnement hein, qui menace un petit peu toujours l'énonciation gestuelle, le geste musical aussi, il faudrait avoir un espace d'implémentation, c'est-à-dire un espace institutionnel capable d'imposer des interprétations respectueuses d'une hétérogénéité sélective et potentiellement homogénéisée par une cohérence discursive qu'on commence à attribuer au texte, à la partition, etc. Parfois, cet espace d'implémentation, donc l'espace de la jouissance, de la rencontre sensible avec l'œuvre musicale, se présente sous forme médiatique comme une reconstruction de variables spatio-temporelles qui permettent la communication, c'est-à-dire la réciprocité convergente des énonciations. Or, par rapport aux autres formes d'énonciation, le geste est le format de l'énonciation la plus vulnérable, car son inscription dans l'espace ne semble pas pouvoir établir de manière restrictive les périmètres de pertinence, le périmètre de l'ancrage, la matière de l'expression pouvant passer facilement d'un espace de référence à l'autre. Pourquoi ? Sur le plan symbolique, la page, la toile, le paysage sont la reconstruction d'un corps-objet d'une identité à part entière où on peut réinitialiser le petit drame de la dissimulation entre les propriétés support et les propriétés inscrites, les propriétés de l'écriture, finalement, du discours. En revanche, le geste signale une condition d'hétérogénéité maximale. La rénonciation, peut-être, en enveloppe exponentielle, intégrateur, pour ouvrir, en revanche, une instauration excentrique et finalement déracinée, potentiellement envahie par l'environnement. On a besoin d'une caisse de résonance discursive, on sait bien, le cri ne doit pas tomber, hein, on sait perdre dans les déserts. L'hôpital militaire de la musique de Lachenmann ne montre que des sons dont la niche a été érodée, consommée. Donc ce sont des sons qui semblent faire face à l'environnement sans avoir de protection. En tout cas, l'aventure du geste musical va au-delà de la sauvegarde de la parole écrite, donc au-delà de la peinture, de l'énonciation sur son espace légitime. Donc, parmi les arts allographiques, la musique établit sur la portée hein, de valeurs qui semblent n'avoir plus de compromission avec l'environnement sensible de la page, hein, la chose que tu as bien montré. Le périmètre est certain, le geste d'inscription est neutralisé, vu que l'allographie doit résister au temps au-delà de la trace d'activité de production en tant que telle. Si la poésie visuelle peut structurer la signification dans la coalescence tensive entre plusieurs langages convoqués, les graphins, les dessins, etc., les partitions dites graphiques sont vécues comme des provocations à la récréation radicale en vue de l'exécution. Et des musiciens ont parlé d'hommage au compositeur parce qu'il y a un effort de traduire ça qui n'a plus finalement aucun codage allographique. La musique ne peut pas finalement renoncer au geste, la littérature pouvant en revanche se mentaliser en sacrifiant l'occurrence phonématique singulière pour profiter de l'actualisation typifiée du phonème en langue. Et en revanche, la musique a toujours besoin de montrer les débuts du son sur la scène, de montrer la confrontation avec l'environnement, même si filtrée par des espaces médiatiques, par exemple électroacoustiques. En ce sens, avec la contrainte d'une exécution qui ne renonce jamais à la singularisation du plan de l'expression, l'art musical devient alors la forme énonciative la plus prête à exalter la gestualité, comme une sorte de refoulement de la notation qui doit après s'exprimer avec tout son potentiel figuratif. Un potentiel qui dépasse le dessin plastique, les calibrages diagrammatiques de l'écriture sur la planchette. Les cadres théoriques que nous avons anticipés pourraient contribuer alors à éclaircir les revanchismes du geste en musique. Durant l'exécution, la musique s'ouvre à l'hétérogénéisation des espaces de référence, à la réinterprétation événementielle et singularisante du matériau diagrammatique de la composition en partition, donc les composantes rythmiques, mélodiques, de timbre, etc. Donc le son, pour utiliser l'expression de Luigi Nono, devient de caminantes, hein, de wanderer, parce qu'ils sont en train d'explorer l'espace et de changer et de trouver des niches de pertinence spécifiques dans l'espace. La manifestation du son est accompagnée par des bruits, par exemple de frictions de mains de l'exécutant sur l'instrument, des rumeurs du public. Surtout, chaque son semble chercher la pertinence spatiale qui accueille le geste d'inscription. Est-ce que la valeur du son est percussif, dramatisation de la relation avec le corps de l'instrument? Est-ce que c'est rythmique, dialogue avec d'autres éléments acoustiques et peut-être aussi hétérosémiotiques déjà présents dans la salle de concert? Est-ce que la valeur explorative de l'espace de résonance constitué par l'architecture, etc. Bref, le geste sonore affaiblit l'affirmation de notes, hein, de la partition, de diagramme en partition en tant que tel, pour questionner leur production et leur inscription diffusion dans l'espace. Les équilibres en partition deviennent de valeur en cherche de validation dans un espace sonore hétérogène, comme de valeur à la recherche de leur valence. Donc, par exemple, nous connaissons bien des exemples comme ça, Das Admende Klarsein de Luigi Nono a prévu des microphones qui commencent à amplifier et à dramatiser la relation spatiale entre la bouche de l'exécutant et le corps de l'instrument. Le couplage entre action performative avec sa trace corporelle, le souffle et la réaction de l'instrument devient un espace à explorer, comme une sorte d'invagination, de reconstruction d'un espace creux, intime, interoceptif. Bref, on parle de gestes sonores car on transforme l'inscription dans un espace formel bien différencié, la portée, dans un questionnement de l'espace, ce qui implique une problématisation du profil même de l'énonciation. L'énonciation musicale demeure du plastique pur, hein, de la partition, pour conquérir dans l'exécution une dimension sémantique qui coïncide avec la recherche même de préciser le geste, son système de connexion avec une initiative, un espace spécifique, et donc à préciser un ancrage et de l'autre côté un mouvement avec une visée spécifique. Il y a une sorte de suspension, si vous voulez, avec un autre lexique, il y a une sorte de suspension des affordances, hein, pour utiliser le mot anglais, donc il y a une sorte de suspension des actantialisations figées, ce qui montre un petit peu le côté atmosphérique de la musique, parfois vertigineux. Proche de la mathématique en phase d'organisation, la musique reste alors événementielle, irréductible à la conversion entre la langue et la parole, parce qu'elle produit avec un espace qui n'est pas codé. Et s'il y a des codages, ils sont pluriels et incapables de saturer la confrontation du son avec l'environnement. La discussion sur la sémantique de la musique peut alors être renouvelée sur la base d'un autre modèle du sens, qui n'est plus établi à partir de la scénarisation du verbe, hein, qui décide en avance les rôles actantiels. Il n'y a plus un modèle lié au remplissement de postes dans des espaces préalablement différenciés de la signification. Dans les champs, dans les domaines de la musique, les modèles sont plutôt les sons à la recherche d'un espace qui lui répond, qui lui montre la possibilité d'une action signifiante. Donc le déficit, le manque de convention sémantique, se transforme alors dans une recherche de remotivation, de résonance analogique, des couplages locaux. Il faut s'adresser à l'espace environnant pour imposer une niche, une boule sémantique individualisante. L'espace d'implémentation, il y a d'autres espaces d'implémentation comme les musées, qui a des pertinences restreintes pour les tableaux. En revanche, la salle de concert résonne. Elle est saturée par la présence de sons et les sons sont perméables aux réponses de l'architecture. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de passe-partout dans l'implémentation de la musique. La fenêtre musicale a du mal à se détacher réellement de la fenêtre acoustique. Certes, on pourrait souligner que la musique enseigne aussi quelque chose à la littérature, que finalement les signifiants verbaux sont susceptibles aussi de devenir des interprétants de textes en explorant d'autres espaces de pertinence. On pourrait trouver la musicalité aussi dans les autres langages. Mais on peut bien rester, aujourd'hui au moins, dans une attitude critique par rapport à la musique et s'est posé alors la question. Oui, on a reconnu la présence du geste sonore, sa dimension pragmatique de questionnement de l'espace pertinent, mais une confrontation avec la richesse de langage, de gestes, qui accompagne, s'autonomise par rapport au langage verbal, peut rester très frustrant. La première confrontation avec les langages gestuels peut concerner avant tout la question de l'hétérogénéité spatiale. Alors, le geste manuel, hein, qui accompagne normalement le langage verbal, peuvent négocier l'espace de leur énonciation, selon au moins un espace de la projection, je peux construire, je peux dessiner, je peux donc dessiner un cadre figuratif. Le geste s'inscrit alors dans un champ où on peut réénoncer la figurativité qui renvoie à des scènes prototypiques, à des événements éloignés spatialement et du point de vue temporel. Donc il y a une sorte de geste écriture. Hein. Il y a encore la possibilité de faire des gestes mais qui ont un autre espace de référence, un arrière-plan. Hein. L'arrière-plan a une autre sémantique de base. Le fond commence à articuler de manière différente les figures occurrentes. Donc il y a un espace, par exemple, un espace plastique pur, de la exemplification pure. Alors le geste s'inscrit dans une sorte d'espace formel où on peut exemplifier des rythmes, des aspectualisations, etc. Il y a des espaces de la présentification, donc un espace de pli énonciatif. Le geste que cherche à travers des déictiques à établir la présence de choses, ou encore un espace qui est déictique mais par rapport à des espaces mythiques, je peux signaler la présence de Dieu comme ça. En tout cas, il y a une sorte de geste autoréférentiel qui renvoie à l'activité énonciative même. Et finalement, il y a un espace figural. Hein, où le geste devient une figure rhétorique qui cherche à analogiser de manière plus ou moins propre ou impropre une figure qu'on peut pas présentifier de manière directe. Donc c'est une sorte de geste tropique, rhétorique, figural. Ce qui est normalement une succession d'interprétations possibles d'une configuration textuelle par rapport au support d'inscription. Donc, il y a dans chaque texte, on peut trouver une lecture plastique, figurative, figurale. Il y a la possibilité de multiplier les accès au son, même dans un texte littéraire, un tableau, etc. Eh bien, cette idée de la sous-section, des lectures différentes, des accès au sens différents, devient, dans les langages gestuels, une parataxe de signes, chacun inscrit sur un espace à enquêter. Si je dis par exemple je mange et après, eh bien devient alors je dois avant tout utiliser un doigt pointé vers mon corps, ce qui active un espace autoréférentiel. Après, je dois porter le main vers la bouche, ce qui semble profiter d'un espace projectif avec une sorte de mimésis figurative, parce que je dois simuler le fait que je dois différencier le geste de manger par rapport à d'autres gestes possibles. Et pour annoncer et pour énoncer après, je dois passer à un espace d'exemplification figurale, une sorte d'idée de sauter un obstacle. C'est très curieux, parce que, ou un laps de temps, hein, en tout cas. C'est curieux parce que dans les langages de gestes italiens, il y a une sorte de formule baroque, donc on doit faire une chose comme ça, et avec l'esprit de géométrie français, en revanche, pour dire la même chose, on dit seulement comme ça. Hein? Après, c'est comme ça. Donc, vous voyez que dans la syntaxe, dans le langage gestuel, chaque geste doit choisir un espace de pertinence spécifique. Il n'y a plus un sorte de plan d'inscription homogène. Il y a une sorte d'hétérogénéité très forte. Et peut-être on peut bien aller au-delà. Moi, j'utilisais seulement plastique, figuratif, figural, énonciatif, pour être très simple. Hein. Mais finalement, si on commence à travailler sur la gestualité, on peut multiplier les espaces de référence. C'est l'idée de la musique. Hein. Je suis en train de proposer que la musique va bien au-delà de ce qui fait le geste manuel qui accompagne normalement le verbal. Tout ça peut montrer en tout cas les problèmes constitutifs du geste. Dans la musique, il n'y a plus les renvois à la discrétisation de mots, hein, les verbales qui accompagnent, à la saturation de l'enveloppe acoustique. Il n'y a plus le renvoi à la discrétisation de mots, et la saturation de l'enveloppe acoustique amène à reconnaître une sorte de lecture double du geste, du son vers l'écouteur et de l'instrumentiste vers les sons. C'est-à-dire qu'à la lecture instauratrice du son, on peut ajouter une lecture modalisatrice de l'espace phénoménal. Son, par exemple, un son qui fait barrière, des sons qui vont entourer ou embrasser l'écouteur. Donc il y a une sorte... J'ai encore du temps, je dois terminer, autrement je peux m'arrêter, hein, parce que j'ai encore quelques minutes. Oui, il faut faire un signe, hein, avec un système de notation quelconque. Hein, bon. Alors, il y a une sorte de narrativisation de la vie des sons. Hein. Il y a l'idée de montrer leur parcours existentiel. Il y a des dialogismes interlocutifs entre le son et l'écouteur. Il y a des analogisations, il y a des modalisations dissidentes, il y a des argumentations figurales, bref. Les profils de tous ces régimes d'énonciation peuvent être activés en musique. Mais en tant que geste, proposition en cherche d'un espace pertinent, parataxe des syntonisations de postures énonciatives. S'il y a, bien sûr, une continuité du flux énonciatif de la musique, de la sorte de courant, les courantes de la musique, les flux de la musique, elle ou il ne déploie pas une configuration à remplir selon le modèle propositionnel, le verbe, hein, les postes qui sont déjà prévus, des actants déjà prévus. Mais seulement, il déploie une attente, une dramatisation du geste successif, parce que chaque geste prévoit un sorte de tournant énonciatif. On doit choisir encore l'espace suivant. En plus, la déixis énonciative n'est plus abstraite. Il n'y a plus encore point responsable de l'énonciation, on peut dire cognitive, hein, de l'énonciation. La topique de l'émission sur les corps, et encore plus sur les corps instruments, hein, devient un espace pertinent pour la qualification du geste. C'est pourquoi les gestes musicaux peuvent développer des dimensions communicatives et autoréférentielles spécifiques par rapport à la parole. Alors, on peut bien commencer un travail. Moi, je peux seulement... j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc, on peut reconnaître qu'il y a plusieurs espaces de constitution du geste musical. Il y a un topic, on peut dire, prothétique, la relation avec l'instrument, en sorte d'espace transitionnel, pour utiliser le mot de Winnicott, hein, l'espace transitionnel qui lie, hein, qui relie les écoutants à l'instrument, prothèse. Donc un espace qui donne lieu à des gestes de pure manipulation, de balancement, de couplage presque fusionnel entre le corps et l'objet, qui explore finalement les frontières de l'interaction pertinente vers l'expression émotionnelle pure, hein, ou chaotique par exemple. Il y a un topic instrumental, et cette fois il y a un espace proximal, dialogique, entre les écoutants et l'instrument, altérité cette fois, qui contextualise la discrétisation des actions, la maîtrise analytique des interventions sur le corps de l'instrument, le virtuosisme, selon un codage préalable des pratiques hétérodoxes et en revanche orthodoxes. Il y a un topic concertante, l'espace de la co-énonciation qui donne lieu à des gestes de synchronisation ou de désolidarisation s'il y a une multiplicité de groupes instrumentaux. Il y a un topique agonistique entre des masses de timbres, hein, de masses orchestrales qui se distribuent, hein, dans l'espace acoustique, qui donnent lieu à de gestes de confrontation, de soutien, de domination, etc. Il y a un topique modalisante, c'est-à-dire l'espace de la réception, les gestes musicaux adressés aux écouteurs, l'impact sonore sur les corps de l'écouteur, hein. Il y a un topique événementiel, c'est-à-dire il y a une sorte d'espace plastique où il y a la circulation du son. Et il y a l'idée que il y a aussi l'idée de que l'écoute commence à construire des gestes de prise, hein, du son. Donc, il est prématuré, bien sûr, de présenter une systématisation générale de la gestualité musicale, aussi précise que celle que Jacques Cosnier a élaborée pour les gestes co-textuels et contextuels par rapport à l'interaction verbale. Ce que nous voudrions défendre ici est une vision de la musique qui trouve son propre autonomie à travers une double émancipation. À travers le dessin plastique qui la partition ne peut qu'exalter, à travers une exécution syntaxique qui n'accepte pas ni la linéarité, ni la tabularité d'un plan discursif capable d'établir en avance de plans sémiotiques homogènes pour un agencement sémantique saturable, donc un système qui suivit la prédication classique. La musique prendre ou va prendre du geste, cherche dans les gestes le modèle d'une temporalisation dominante. On ne peut que gérer la continuité des événements sans pouvoir se réfugier, hein, finalement dans des types, hein, dans des types de sons, mais dans les courants, dans les flux de la modulation et de la modalisation de corps instrumentaux, il faut suivre une hétérogénéité topique de la sémantisation. Cette idée de rendre l'espace pertinent un événement montre, cette idée de transformer l'espace pertinent dans un événement, montre le fait que le discours musical, traversé par des jeux de langage et de normes figées, reste plutôt disponible à l'expropriation expérientielle, où l'interprétation et la jouissance, voire aussi la consommation, se confondent. On peut constater la volatilité de la niche, hein, de l'espace intime au geste, l'atmosphérisation, si vous voulez, de gestes. On peut défendre le dessin musical à travers les barrières de l'institution et les contraintes codées de l'écoute, hein, le silence respectueux, la distance, l'immobilisme presque, de l'écouteur presque qui va vers la paralyse presque. Mais cela ne fait que montrer la confrontation de la musique avec l'événement, son énonciation vulnérable par rapport à un espace que devient tout saturé par des valeurs à la recherche de personnages et des gestes interprétables. L'attaque, hein, dans la musique, l'attaque en musique est une forme, une manière pour souligner les capacités instauratrices de l'énonciation. Le geste, finalement. Mais la perméabilité avec d'autres pratiques, manger, parler, du spectacle, jazz, par exemple, n'est qu'une autre forme de dramatisation de l'affirmation musicale par rapport à l'hétérogénéité. Une hétérogénéité auprès de laquelle elle voudrait bien héberger. Hein, la musique veut habiter dans l'hétérogénéité. Montrer donc le déplacement contenu de l'émergence sonore, l'épiphanie distributive de petits drames sonores. La musique contemporaine, avec l'irruption du silence, a seulement souligné la matrice gestuelle de la musique, l'hétérogénéité des articulations sémantiques qu'aucun programme narratif ou figuratif extérieur a réussi à compacter et à résoudre dans un poème symphonique, unitaire, ou dans un programme musical. Peut-être, on peut dire, on a surestimé le rôle de la gestualité en musique aujourd'hui. L'idée d'assumer les modèles du geste pour réinterpréter les systèmes, le régime énonciatif et donc sémantique aussi de la musique peut sembler trop risquée et finalement contradictoire. Certes, il serait intéressant d'expliquer les relations entre le sérialisme, par exemple, et la musique gestuelle qui ont partagé la scène musicale vers la fin des années 50, début des années 60. Alors, le pointillisme, le webernisme, semble une distillation des conversions brusques de la surface, une sorte d'exploration de la surface d'inscription de sons. L'idée d'expérimenter une succession de textures et d'espaces de résonance antinomiques. Donc il y a une sorte d'intimisation de gestes sonores, du webernisme, du pointillisme, et cela n'était qu'une manière pour transplanter cette idée de choisir, de détecter, de reconnaître que chaque son a une sorte de privilège, la possibilité d'avoir un ancrage, un espace d'inscription spécifique autonome, s'est traduit, de manière presque un peu paradoxale, dans la spectacularisation de pratiques hétérodoxes, du virtuosisme, avec une confluence progressive, avec l'hétérogénéité de pratiques, à commencer de la pratique d'écoute exercée dans la salle de concert. Donc d'un côté, il y a bien sûr les partitions de John Cage, où il y a une sorte d'affirmation de l'hétérogénéité obliquiste de la musique qui n'accepte plus finalement des restrictions, de l'espace des restrictions spécifiques d'un espace d'implémentation vers l'idée d'accepter l'environnement en tant que tel. Dans mon intervention, peut-être j'ai déjà occupé pas mal du temps, explorer un petit peu la relation entre l'espace d'implémentation et l'environnement. Mais je ne voudrais pas oublier, au moins par rapport au résumé que je présentais, la tentation musicale très répandue de rendre invisible le geste pour confier totalement sa signification au discours sonore. Les corps derrière les coulisses de An Answer Question laissent en premier plan sur le plateau la trompette et un quatuor devant, donc de bois, où les instrumentistes ne peuvent pas se regarder, au moins dans la partition. Après, il y a des écoutions qui ne sont pas capables ou ne veulent pas suivre les indications de Ives. L'invisibilité du geste est alors exemplifiée pour les spectateurs à travers les corps ne sont pas là, sont dans les coulisses, et pour les écoutants, les instrumentistes, à travers l'hétérogénéité de l'occupation du plateau. Il est évident que la désolidarisation spatiale de timbres entre cuivre, trompette, bois et cornes ne peut que souligner encore plus cette idée de travailler sur une matière de l'expression différente. Et que l'intégration visuelle de la scène ne pourrait que nuire à cette signification dramaturgique de la musique par différenciation de gestes. Interrogation dans les vides, strates cursives qui voilent ce qui ne semble avoir pas de consistance, tentative de réponse en plein dissonance par rapport à l'entour. Chaque geste tombe un petit peu dans les vides, dans la partition de Ives, dans la composition de Ives. L'apparent cosmologie de la musique révèle finalement une monadologie, une reproduction de bulles énonciatives, de couplages geste-espace, de niches de référence qui ne laissent pas la possibilité de totaliser l'espace, d'intégrer un panorama. La réversibilité constitutive des espaces acoustiques, contacter les sons dans l'espace et être contacté par les sons, ne peuvent prévoir d'ailleurs qu'une dissociation de gestes, de prises, l'abandon total du confort, de l'affordance, de la scénarisation préétablie. La musique est donc toujours une mesure pour faire face aux disproportions, pour trouver la taille, pour trouver des niches, pour interpréter des gestes. On a déjà suggéré que la dimension acousmatique, en cachant la source sonore, ne produit qu'une prolifération de l'imaginaire gestuel. Le même corps résonant peut éclater dans plusieurs mondes sonores possibles qui rendent signifiants des gestes spécifiques. L'imaginaire, finalement, n'a pas un plan de l'expression certain, établi, et laisse en revanche les possibles gestes instaurateurs dans une sorte de concurrence en recherche de solutions. L'articulation signifiante est locale, discontinue, finalement épisodique, voire coalescente, réverbération entre plusieurs petits drames sonores. Si on veut, l'expérience contraire de la musique acousmatique peut être la vision de l'exécution de microphonie de Karlheinz Stockhausen, ou la vision, éventuellement, la vision du film tourné en 1966 sur la réalisation électroacoustique de ces pièces. Une sorte de 2001 Odyssée du son, où à la place du monolithe noir, il y a un tam-tam. Cette pièce de Live Electronic Music montre bien le frottement sur la surface de l'instrument, les actions percussives et même la présence des microphones deviennent un geste de contact, d'éloignement, d'exploration circulaire périphérique. Toutefois, à cette ostentation de gestes cliniques presque sur l'objet, sur les tam-tams, on trouve en revanche l'indifférence imperturbable du corps sonore, les trous noirs du tam-tam, les événements internes à l'instrument. Et après, la déconnexion locale entre les gestes et la réintroduction filtrée et décalée du son électronique, déraciné par rapport à la gestualité distanciation réelle. Donc, voyez, le microphone, la microphonie de Stockhausen devient une sorte de multiplication de l'interprétation de gestes indirects, de gestes qu'on peut pas, de réactions qu'on ne peut pas voir, des réintroductions de la musique qui ne semble pas avoir un ancrage dans un geste, un acte, mais en tout cas, il y a une sorte de geste électronique, et c'est là, bien expliqué, il y a un peu la leçon de Xenakis, là-dessus, sur les gestes électroniques. Et après, il y a encore la réaction de l'espace d'implémentation, la salle ou le studio, dans le cas du film, qui n'est pas visible, mais qui va réagir. Alors, microphonie semble suggérer que la musique cherche finalement à montrer une articulation entre deux environnements, les réponses internes du tam-tam et l'espace acoustique, comme si l'actorialisation, une sémantique liée à l'identité et la scénarisation narrative, n'était plus pertinente. De manière antiphrastique, microphonie montre d'une part la virtuosité des instrumentistes qui dépasse l'idée une sorte de virtuosisme, finalement, qui dépasse l'idée de l'écouteur de pouvoir contrôler le déroulement de phénomènes musicaux. Et de l'autre côté, il y a le morceau de l'autre côté, le morceau de Stockhausen montre une sorte d'expressionnisme gestuel qui contraste avec l'aptitude clinique très bien réglée, la circonspension, l'idée de régler, de maîtriser bien les gestes par rapport au tam-tam. Eh bien, je pense que j'ai une autre partie sur la relation entre l'espace d'implémentation et l'environnement. Moi, je pense que je dois m'arrêter ici. J'ai déjà profité pas mal de votre temps. Merci.
Merci pour cette intervention très riche. Alors, peut-être, voilà, passer directement à s'il y a des questions. Faire une analyse comparable
c'est une forme générale qui peut avoir des occurrences variées du point de vue de la sensibilité, ou est-ce que c'est souvent le problème qu'on a lorsqu'on analyse des choses qui sont d'ordre sensible, est-ce qu'il y a des spécificités ou est-ce qu'il y a des règles générales? Alors si on des règles générales, un formalisme général, qui fait, l'idée par exemple de faire communiquer des espaces, c'est un formalisme, d'une certaine façon. Moi je trouve ça très bien, hein, mais, ouais. Moi je trouve ça ce que toi t'en penses. Ouais.
Oui, donc oui, bien évidemment, je pense qu'on peut trouver des relations, des continuités. Donc, bien évidemment, il y a par exemple toute une relation entre l'espace de l'implémentation et l'environnement de la peinture. On peut penser à la peinture dans les églises, le fait qu'on a développé dans les 16e siècle la quadrature, hein, on dit, c'est-à-dire le fait qu'il y a une sorte de compénétration entre les tableaux, la sculpture, hein, et l'architecture, et donc l'idée que les lisières finalement textuelles sont de plus en plus poreuses. Finalement on peut trouver une sorte de osmose, hein, entre le périmètre du texte et de l'autre côté l'espace d'implémentation, parce que finalement l'espace d'implémentation n'est que le système de les lisières ultimes de la confrontation de la discursivité avec l'environnement, hein. Donc la culture cherche un peu à renvoyer, elle cherche à protéger de la signification discursive, mais tôt ou tard elle doit, parce que finalement déjà un musée c'est une sorte de configuration sémiotique, il cherche à protéger l'interprétation et pas l'usage, c'est-à-dire à régler la confrontation entre le spectateur et les textes, à canaliser, on peut dire, les attentions et les pertinences à utiliser. Mais après, il y a la confrontation entre le musée et la ville et les paysages. Donc je pense qu'on peut trouver du formalisme même dans les autres langages, mais vraiment la musique est une sorte de confrontation avec la vulnérabilité de nos espaces d'implémentation. C'est-à-dire qu'elle doit se confronter avec l'ancrage spatial en tant que tel. Et là, il y a encore un son. Alors, par exemple, si on commence à voir la pratique aussi d'exécution de, par exemple, de Luigi Nono, il y a des choses très, très intéressantes. On peut trouver, même dans la partition ou dans des écrits de Lono à propos de la praxis, de la pratique d'exécution. Alors, il dit, par exemple, il faut commencer à faire circuler les sons, donc il y a une sorte de déracinement du son par rapport au geste, on commence à faire circuler les sons dans l'espace électroacoustique, jusqu'au contact avec la réponse De l'espace, de la salle. Et alors il dit, quand tu commences à écouter les résonances, coupe. Ou en revanche, prolonge. Donc il y a une sorte de coaction. Là, le geste, hein, je voudrais un peu utiliser cette métaphore, on connaît bien que geste est très lié à la même généalogie, on peut dire, de gestion. Hein? On peut dire que le geste musical est toujours une co-gestion, parce qu'on ne peut pas inscrire un signe dans un espace formel, déjà formalisé, déjà protégé, seulement dans la partition. C'est ça le paradoxe de la musique. Apparemment, la musique est l'art la plus holographique qui existe. On peut commencer à lire la partition de Fragmenti stile Andiotima avec une quantité énorme de signes pour l'exécution hétérodoxe, on peut dire, des corps. Mais après, l'exécution ne peut que faire face à la co-construction du discours. Et donc au fait qu'il y a seulement de niches, il y a seulement de... c'est pour cette raison qu'il y a une sorte de dramatisation d'un geste, parce que c'est un geste qui relève un petit peu de l'exécutant, des instrumentistes, qui relève aussi des participants, parce que les écouteurs, c'est ça la question de les problèmes de la musique contemporaine, c'est que l'écouteur doit aller vers les sons, doit chercher les sons dans l'espace. Et donc, il y a aussi une sorte de co-gestion, parce qu'il y a les gestes de la prise du son, de la mise en forme du son, de la de la contextualisation spécifique du son, de la boule, de la niche spécifique à partir de laquelle on peut interpréter, sémantiser les sons. Et c'est pour cette raison que les expériences électroacoustiques ont montré que même la partition doit changer à partir de l'espace utilisé. Donc le Prometeo à Venise n'a pas été le même Prometeo que j'ai vu à l'Ansaldo à Milan en 1985. Hein? Il a transformé la partition pour s'ajuster à l'espace, parce qu'il a compris qu'il y a une sorte de co-gestion. Et au fond, si on peut se poser la question de la confrontation, de la comparaison, etc., oui, je pense à Michel-Ange. Michel-Ange a réalisé plusieurs Pietà, hein, donc le sujet sacré avec la Vierge et le Christ mort, hein, dans ses bras. Eh bien, on peut bien voir la transformation. Il a commencé avec une sorte d'aptitude typique dans la Renaissance, donc l'idée d'insouffler l'esprit dans la matière, donc l'idée de projeter une sorte de programme esthétique dans la matière. Et il a terminé avec la Pietà Rondanini, où il y a un bras détaché par rapport au corps, parce que il a cherché la réaction de la matière. Il a continué jusqu'au bout. Il a cherché une sorte de dialogue. Il n'a plus accepté qu'il y a une sorte de contrôle total de l'artiste par rapport à l'espace d'inscription. Il a cherché la réponse. Alors, réponse, c'est déjà un renvoi à un autre compositeur contemporain. On cherche aujourd'hui, de plus en plus, on a compris qu'on doit co-créer le son à partir de l'espace. Et que l'espace est un espace très hétérogène, parce qu'il peut être l'espace de la relation avec l'instrument, peut être l'espace presque de la somatisation, de l'impact, hein, peut être l'espace de la circulation du son, l'idée de suivre un parcours, les caminantes, non, le parcours du son. Donc il y a une sorte d'hétérogénéité maximale. Il n'y a plus la séquentialité, il n'y a plus le verbe, il n'y a plus le format propositionnel. Donc là, je cherche, mais peut-être, je ne sais pas si j'exagérais, hein, c'est une tentative, bien évidemment, mais étant donné qu'on n'a pas vraiment résolu la question de la sémantique musicale, on peut reconnaître qu'il y a plusieurs manières de donner du sens. Et finalement, par exemple, dans les livres que j'ai achetés depuis longtemps, hein, votre livre là-bas, donc il y a des modalités différentes de donation de sens. Eh bien, peut-être on peut relire tout ça, les associations en tant que figuralité, hein, etc., l'historicité en tant que relation avec la praxis musicale, la stratification de formes musicales, etc., etc., etc. Donc, je pense qu'on peut réproblématiser la sémantique musicale, commencer à répondre à tout ça, si on dépasse le format propositionnel typique du verbe, de la configuration, il y a déjà de postes là, finalement. Parce que cela donne encore l'idée qu'il y a une sorte de type qu'on peut éventuellement utiliser les types. Comme je peux lire par esprit, je peux lire un texte en disant, oui, finalement, je peux utiliser la voix, mais il y a de phonèmes figés, stéréotypés dans la langue. Ça marche aussi pour comprendre les rimes. En musique, on ne peut pas faire ça. Je pense que chaque compositeur, même s'il peut lire la partition, a besoin d'écouter la musique. Et normalement, il change. Je connais un petit peu de compositeurs qui changent la partition à partir de la première exécution. Parce qu'ils ont reconnu des problèmes, hein, des idées qu'on n'a pas trouvé un ancrage finalement de la partition. Donc on commence à corriger, etc. Parce que finalement, c'est l'événement sonore, la chose la plus importante pour le compositeur.
Vous avez regardé l'œuvre de Nunez par rapport à ces histoires d'espace, justement. Enfin, juste une parenthèse.
Oui.
C'est intéressant, je pense, si vous êtes, enfin, par rapport à Nono, etc. Il y a une configuration très particulière dans l'œuvre de Nunez. Il écrit justement pour certains lieux spécifiques.
Oui.
Ce que ça change, ce que ça implique dans l'écriture.
Oui. Oui, oui, oui.
Moi, j'ai une autre question. Vous avez parlé à un moment de Jacques Cognet sur l'histoire de gestes contextuels, c'est ça? Je me demande de quoi il s'agissait exactement. C'est par rapport aux gestes que l'on fait quand on parle que...
L'opposition de Cognet est co-textualité, contextualité. Alors, la co-textualité est le geste manuel qui va accompagner le discours verbal et donc qui peut suggérer le passage de tour, qui peut construire une sorte de ponctuation par exemple par rapport à l'interaction, etc. Qui peut substituer aussi des mots, hein. Parfois il y a la substitution du mot à travers un geste, etc. Les gestes contextuels en revanche ont la capacité de reconstruire la scène. Donc, ils ont une sorte de capacité autonome de configurer la relation, et donc l'interaction. Donc, il n'y a plus une sorte de prééminence du verbal. Là, les gestes deviennent, comment dire, l'aspect le plus important.
Presque du mime.
Hein?
Presque du mime, ça n'a rien à voir.
Oui, il y a la difficulté. Si on commence à lire le texte, j'aime bien, hein, Jacques Cognet a écrit, je pense, des essais très remarquables. Mais si on voit, même à un niveau d'extension, pour ce qui concerne les gestes co-textuels, il y a une typologie énorme, une description énorme. Pour ce qui concerne le geste contextuel, il y a quelques lignes de paragraphes, pas plus. Parce qu'on entre, bien évidemment, dans une sorte d'autonomisation du geste, et qui n'est plus lié à une sorte de système code, hein, c'est-à-dire au fait, comme on dit système code chez Echo, c'est-à-dire une sorte de système substitutif de la langue naturelle. Donc c'est pour cette raison qu'il y a la langue des signes du français, les langues des signes. Il y a des caractéristiques spécifiques, mais normalement il y a l'idée de renvoyer aussi à la sémantique, de s'appuyer un petit peu à la sémantique de la langue naturelle. Après le langage de signes, au-delà du langage de signes, bien évidemment, il y a les gestes qui n'a plus, comment dire, une sorte de décodage, de référence préétablie.
Parce que c'est effectivement un excellent exemple de voir qu'il y a un geste accompagnant, en fait, pour dire comme ça. Bon, on connaît tous le geste du chef d'orchestre.
Oui.
Qui est à la fois inducteur et résumé, enfin, c'est très étrange. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a un côté très codé de ce geste-là, mais il y a aussi un côté qui est beaucoup moins évident. Oui. Et il y a aussi cette idée que, effectivement, on reconstitue, enfin, finalement, la musique, il y a une reconstitution, ce que moi j'appellerais un geste intérieur, c'est-à-dire que c'est un peu. Pas très loin de ce que Scandetti désignait la séance précédente avec ses histoires de neurones miroirs et tout ça, mais cette idée qu'au fond, toute production musicale génère une attitude corporelle, en fait. Il y a quelque chose qui est là-dedans très très fort et qui est effectivement est une forme de transcription. Un très bon mot, mais enfin voilà, on passe d'un espace à un autre, c'est une connivence très forte, et c'est vrai que c'est la chose qu'on serait moins capable d'écrire et de rendre un petit peu concret, quoi. Mm-hmm.
mais à la fois c'est probablement effectivement très très important cette affaire. Et dans les représentations, effectivement, on a affaire à ça, c'est-à-dire que la naturalité du transfert qu'on opère est liée à cette connivence. C'est évidemment très intéressant parce que, au fond, quand on parle et qu'on fait un geste qui correspond, c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire quand on s'y si, dans l'idée du séminaire, c'est-à-dire que cette idée que on peut accompagner visuellement la musique en temps réel, etc., et lui donner un aspect qui facilite son écoutement. Qu'on fasse une analyse en temps réel, etc., de ce point de vue-là, si on se met à faire un geste effectivement accompagnant la musique, ça répond à la question d'une certaine manière. Donc c'est aussi intriguant, quoi. C'est-à-dire que, mais bon, évidemment, ce qui après est difficile, c'est de savoir les espaces de code sous-jacents. C'est-à-dire que ça, c'est une chose qu'on sait très bien en musique, c'est-à-dire que vous prenez le même thème, suivant où vous le placez dans votre symphonie, en fonction de tel contexte, il va prendre une signification complètement, voire radicalement différente. Et donc, il y a toujours un jeu, quoi, avec ça, c'est évident.
Oui. Merci en tout cas, et avant tout. Et je peux répondre en disant finalement, je peux avouer une chose, finalement, je suis dans ces moments très intéressé à souligner l'hétérogénéité et pas l'homogénéité. Alors, l'idée de la concordance, l'idée de répéter sous plusieurs paliers de signification la même chose, oui, on peut trouver ça, bien évidemment, on peut trouver. Mais, par exemple, j'ai pas mal étudié les langages du cinéma. Alors là, on commence à voir la richesse audiovisuelle quand le metteur en scène décide de construire la désolidarisation entre chaque niveau d'énonciation, chaque ressource énonciative. Chez Kubrick, je peux voir même un film classique comme Barry Lyndon, il y a le narrateur qui va anticiper les événements, c'est l'idée de détruire les attentes du spectateur. Il y a, et dans tout cas, il y a l'idée d'anticiper. Hein? Il y a une sorte de temporalisation raccourcie, hein? Les syncopes, on peut dire. Hein? Sur les plans musical, la musique utilisée est toujours circulaire. Hein? Et l'idée de répéter de manière comme une sorte de rituel funèbre, hein? Déjà au début du film. Et sur le plan de la lumière, il y a l'idée, en revanche, de l'événement, du phénomène local. L'idée que, par exemple, il a utilisé la lumière naturelle et des bougies, hein, avec un système un caméra qui a été développé à la NASA, c'est-à-dire c'est une sorte de dispositif exceptionnel pour montrer une sorte de perméabilité entre les corps et l'environnement. Donc, je peux continuer. Il y a une sorte d'hétérogénéité maximale. Donc, bref, sur le plan des langages syncrétiques, on peut voir aussi la désolidarisation pour augmenter les tensions internes. Sur le plan de gestes du maître d'orchestre, je vois encore une fois c'est une sorte d'hétérogénéité renversée, parce que apparemment le geste est unifiant, on peut suggérer les attaques, on peut faire des gestes expressifs sous la modalité d'interprétation de la musique, etc. Il y a plusieurs significations, et donc le même geste, même dans la continuité d'un geste, si on commence à vraiment faire l'analyse, on peut voir qu'un geste peut commencer avec un espace d'inscription pour dire quelque chose, attaque, il peut terminer avec une nuance expressive. Donc l'espace derrière le geste a changé. La relation entre figure et arrière-plan a changé. Et la prégnance, hein, que c'est la cinquième propriété de la théorie de la Gestalt, toujours oubliée, hein, parce que c'est la tension sémantique. C'est-à-dire qu'il faut trouver localement la prégnance et choisir la stabilisation locale. Donc, comment dire, oui, on peut voir une sorte de congruence, sûrement, hein, mais dans ces moments, moi, je voudrais aussi montrer l'hétérogénéité. Et peut-être on peut gagner quelque chose en plus, hein, si on montre que la musique est une sorte de gestion de l'hétérogénéité, plutôt qu'une sorte de gestion de la de l'homogénéisation, de la seulement de la. C'est curieux, hein, c'est l'idée de trouver une forme de syntonisation, mais multiple. Hein.
De ce que j'en tiens, j'ai l'impression que le geste est fortement lié à l'espace et que si à la limite s'il n'y avait pas d'espace, il n'y aurait pas de geste. Comme si le geste. Ce que vous avez dit d'hétérogénéité, ça fait penser un peu à la division de l'espace, un peu d'espace, on peut tout effectivement diviser, mais ça c'est donc on est dans l'espace. Dans l'espace, on peut aller le plus finement possible d'une certaine manière, on peut utiliser des technologies pour aller. Le problème, c'est est-ce qu'on capte ce qu'on veut capter ? Est-ce que cette chose-là, évidemment, on pourra montrer quelque chose, on pourra montrer quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais est-ce que ça a un sens ? Donc l'autre côté, c'est de dire en quoi est-ce qu'il peut y avoir des gestes sans espace ? Est-ce qu'il faut absolument avoir un espace ? Bon, si je fais un geste comme ça, on a l'impression qu'on a besoin d'espace. Mais est-ce qu'il y a des gestes, et qui seraient à ce moment-là des gestes plus liés avec la musique ? Qui fait qu'en fait on aurait des gestes du temps, mais qu'on ne peut absolument pas, qui n'ont rien à voir avec l'espace. C'est juste
Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a la possibilité de penser un geste sans un espace. C'est comment penser s'il y a
de dimension, même dans les mots. Dans les mots, il me semble qu'on est toujours dans. Je ne fais pas bien le rapport avec ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on est fortement dans un vocabulaire d'espace, qu'on est fortement dans l'espace. Et que là, curieusement, le geste arrive comme un vecteur du vocabulaire d'espace ou du langage de l'espace. Donc voilà, c'est un peu vis-à-vis de ça où j'avais un peu de...
Oui, j'ai déjà dit que je n'ai rien contre les formes temporelles, c'est seulement une partie. J'ai travaillé plutôt sur l'espace, mais il faut dire par exemple que John Cage a élaboré l'idée de 4 minutes 33 secondes de silence, finalement, après la possibilité d'éprouver, de faire l'expérience d'une salle totalement vide, où il n'y a plus la possibilité de la circulation du son. C'est après ça qu'il a écrit la partition 4 minutes, c'est-à-dire une expérience spatiale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un geste n'a pas l'espace? Non, pas du tout. Et même s'il y a l'idée de la, comment dire, des influences, de la coordination, de la syntaxe, on a besoin d'espace finalement. La coordination, on a besoin d'espace. Et l'espace est toujours en train de, est toujours couplé aussi à la présence des objets et des sujets. Donc c'est pas un espace amorphe, c'est un espace qui commence à prendre une forme à partir du fait qu'il y a des initiatives, des actions, de présence, etc. C'est un espace réponse, je veux dire. C'est pas un espace inerte. C'est pas un espace comme seulement extension. C'est pas une catégorie de l'esprit. Ils ne sont pas, je vais pas parler comme une sorte de catégorie transcendantale, kantienne. C'est vraiment l'espace en tant que cadre expérientiel où on peut commencer à articuler des discours.